Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie et de ce qui va être l'avant-dernier numéro de la saison pour votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Et oui, c'est au moment où les salles de spectacle vont pouvoir de nouveau accueillir le public au maximum de leur jauge que les saisons de concerts et d'opéras se terminent. Pas toutes cependant, il reste quelques événements à noter sur vos agendas dans les jours et semaines à venir. Par exemple, Elektra, l'opéra de Richard Strauss, dont les représentations au Théâtre du Capitole commencent ce vendredi 25 juin et vont se poursuivre jusqu'au 4 juillet. Les grands interprètes accueillent de leur côté l'ensemble Il Pomodoro et le contre-ténor Franco Fagioli à la Lohengrin le 1er juillet, où ils vont interpréter Oreste, l'opéra de Handel en version concert. Il y a donc encore de belles choses à voir et à entendre avant les vacances et la saison des festivals. À ce propos, vous vous rappelez peut-être que nous avions présenté en début d'année la programmation du Festival de Rocamadour, dont la 16e édition a lieu du 15 au 26 août. Mélomanie accueille justement aujourd'hui Aimeran Rollin, le directeur artistique du Festival de Rocamadour. Mais plus que le directeur artistique, c'est le musicien, l'organiste que nous recevons, alors qu'il s'apprête à donner un concert ce samedi 26 juin à 20h30 sur le grand orgue de la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Il va jouer un programme entièrement inspiré de son CD Vibrance, paru cette année et consacré à un certain Jean-Sébastien Bach. Nous allons découvrir ce CD et les œuvres qui le composent en compagnie d'Aimeran Rollin et du fidèle Serge Chosy, lui aussi présent dans cette émission. C'est parti pour notre rubrique Agenda.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda, c'est donc d'abord le récital d'Aimeran Rollin ce samedi 26 à la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, où il va jouer sur le grand orgue un programme très largement, voire complètement inspiré de son CD Vibrance paru il y a quelques mois. Dites-moi, est-ce que c'est le premier concert que vous donnez depuis la fin du confinement ?
Oui, le dernier concert que j'ai donné, c'était l'été dernier, dans le cadre du Festival de Rocamadour. Donc ça fait 10 mois que je n'ai pas joué devant un public. Donc ça va être une émotion particulière.
Alors vous n'êtes certainement pas le seul dans ce cas, mais bon, vous concernant, la reprise se fait finalement assez rapidement après la levée du confinement. Donc CD et Vibrance consacré à Jean-Sébastien Bach. Bach, un continent que se doit d'explorer tout musicien. Mais alors concernant son œuvre pour orgue, est-elle aussi vaste qu'on l'imagine? Je rappelle que Bach était lui-même organiste.
Oui, ce qui est certain, c'est que pour tout organiste, on passe forcément par ce compositeur dans nos études au conservatoire. Autant il y en a d'autres qu'on n'explore pas, mais Bach, c'est la base de tout. Il a inspiré Mendelssohn, il a inspiré Brahms, il a inspiré Liszt. Enfin, beaucoup de compositeurs qui ont suivi sont inspirés par la musique de Bach. L'œuvre pour orgue est colossale, à part si on fait une intégrale et qu'on se dit on veut vraiment tout travailler, mais il y a des heures et des heures de musique. Quand on fait une intégrale Bach, il y a 12 ou 15 CD
potentiel,
oui.
Alors vous concernant, je vais quand même vous poser la question, est-ce que c'est le compositeur que vous mettez au-dessus de tous les autres ?
Bah, pour moi, en tant qu'organiste, oui, parce que si je prends le prisme en tant qu'organiste, oui, parce qu'après, évidemment, j'aime énormément Mozart, mais Mozart, il a très peu écrit pour l'orgue, il y a quelques pièces par rapport à Bach, c'est pas la même chose, Beethoven, c'est pareil, mais de tout temps, depuis que je joue cet instrument, je suis toujours revenu à Jean-Sébastien Bach, quand je vais vers Vidor ou vers Franck, je me dis c'est bien, et puis je me dis j'ai besoin de jouer du Bach, j'ai besoin de retravailler cette musique, de la rejouer, c'est pas pour rien que ce premier disque est dédié à ce qu'on là aussi.
Alors, ce CD, on va parler bien sûr des œuvres qui le constituent, mais Vibrance, pourquoi vous avez choisi ce titre ?
Alors, c'est un travail d'équipe, hein, parce que j'ai la chance d'être entouré par de formidables collaborateurs au Festival de Rocamadour, puisque ce disque, c'est le premier disque du label Festival de Rocamadour. Et il se trouve que j'ai voulu que ce disque présente mon travail d'interprète, mais présente aussi les couleurs de l'orgue de Rocamadour, parce que l'orgue de Rocamadour est un instrument qui a 7 ans et demi, c'est un instrument entièrement neuf, c'est le premier disque enregistré sur cet orgue, et donc je voulais montrer toute la palette sonore. La vibrance en photographie, c'est justement le travail de la couleur, et donc mon responsable communication, qui est photographe, a eu cette idée-là, donc ce titre n'est pas de moi, mais j'ai trouvé que l'idée était vraiment très intéressante, parce que quand je lui ai parlé de moi, ce que je voulais dire à travers ce disque, il m'a proposé ce mot-là, et ça m'a parlé, voilà.
Oui, puis l'orgue fait aussi vibrer les murs. murs de la basilique en
oui,
même
c'est pour
temps.
Ça. Oui.
Donc il y a un peu tout ça. Hein. Alors vous parlez de l'orgue justement, ce grand orgue de la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, instrument contemporain entièrement conçu par Jean d'Aldosso, il faut le citer, qui d'ailleurs est un facteur d'orgue qui habite notre région, je crois qu'il est basé dans le Gers.
Dans le Gers, à Gimont.
À Gimont, donc pas si loin de Toulouse. C'est un instrument contemporain, mais je crois que la mécanique est entièrement baroque en fait.
C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire quand on le voit, cet orgue, un orgue, chaque orgue a sa spécificité, et là, le buffet, il n'y a pas d'autre orgue au monde qui ressemble à cette forme de proue de navire qui sort de la falaise et qui vient se poser contre le premier pilier de la basilique. Le buffet est donc contemporain, il rappelle le lien qui unit Notre-Dame de Rocamadour au monde de la mer depuis le Moyen-Âge.
Mais c'est la protectrice des marins.
Des marins, voilà, donc il y a vraiment un lien entre le visuel que l'on voit et l'histoire. Et puis, ce qui est très étonnant, et je ne sais pas pourquoi cette décision a été prise, mais parce que je n'étais pas là à l'époque, mais l'intérieur de l'instrument, c'est un instrument très traditionnel puisqu'il a été choisi de reconstituer un orgue polyphonique sur base baroque allemande. En fait, on a un orgue qui est fait pour jouer du Bach, et donc tous les claviers sont mécaniques. Voilà, c'est une facture d'orgue extrêmement traditionnelle à l'intérieur.
Il a des particularités, cet orgue, par rapport à d'autres, en termes de sonorité, de couleur, justement.
Alors, par rapport à d'autres, au niveau couleur, on va dire que non, il a les couleurs d'un orgue baroque allemand. En revanche, une spécificité, c'est dans un système mécanique des jeux baladeurs, parce que ça, c'est un peu technique, mais souvent dans l'orgue, en fait, les jeux qui sont donc les instruments de musique, hein, un organiste, c'est comme un chef d'orchestre qui a des violons, des flûtes, des trompettes devant lui. Bon, bah, nous, on a des jeux, et chaque jeu correspond à un instrument. On a les flûtes, les trompettes, les violons. Bon, d'habitude, les jeux sur un orgue, 90% du temps, ils sont affectés à un clavier en particulier, donc à un plan sonore. Et là, on a un système qui fait que ces jeux-là, on peut les mettre sur différents plans sonores. On appelle ça des jeux baladeurs. Ça nous permet de démultiplier les combinaisons sonores que l'on peut réaliser. Et ça, c'est un système qui se trouve très rarement.
Voilà, je pense que les organistes qui nous écoutent apprécieront cette petite leçon du fonctionnement concernant le fonctionnement donc de l'orgue, du grand orgue de la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Nous allons écouter un premier extrait de Vibrance, votre CD, enregistré précisément sur ce grand orgue de Rocamadour. Voici le début de la toccata et fugue en ré mineur BWV 538 de Jean-Sébastien Bach, évidemment, interprété par Aimeran Rollin. Le début de la toccata et fugue en ré mineur BWV 538 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Aimeran Rollin, extrait du CD Vibrance, enregistré sur le grand orgue de la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Et je le précise, le concert que vous donnez ce samedi 26 juin au même endroit à la basilique, donc, est entièrement inspiré de ce CD. Il y aura vraiment toutes les œuvres qu'il y a sur le CD, pas une de plus, pas une de moins.
Non, il y a toutes les œuvres dans le même ordre. En fait, c'est le concert de sortie du disque.
Voilà, c'est le concert qui vient célébrer en quelque sorte l'apparition du disque il y a quelques mois déjà qu'il est sorti.
Ce concert aurait dû être le 11 novembre et c'était en plein confinement. Ce concert du 26 juin était déjà prévu dans la saison, mais je devais donner un autre programme qui était plutôt romantique allemand. Il y avait du Brahms, du Liszt, du Mendelssohn qui était prévu. Et en fait, comme j'ai pas pu faire le concert de sortie du disque, on peut pas ne pas fêter la sortie d'un disque.
Et fort heureusement, le confinement a été levé assez tôt pour que vous puissiez maintenir ce concert. Alors cette pièce-là, celle qu'on vient d'entendre, pourquoi est-elle sur le CD ?
Parce qu'elle est magnifique.
Ça, c'est une bonne raison, mais je pense qu'il y en a d'autres.
En fait, donc, en concevant ce CD, j'ai d'abord choisi des pièces qui me touchent énormément.
Voilà, d'abord, il y a votre goût personnel.
Il y a mon goût personnel. Et vraiment, il y a des pièces que je joue depuis 15-20 ans, d'autres que j'ai travaillé exprès pour ce disque. Et puis, il y a aussi... La chance que j'ai eue avec l'orgue de Rocamadour, c'est que j'ai participé à la création sonore de cet instrument. Donc, les 6 mois de création du son avec Jean Daldosso, tous les jours, je venais jouer l'orgue pour dire ce qui me plaisait ou ce qui me plaisait pas. Et on a travaillé ensemble le son de l'orgue. Et puis, contrairement à des instruments historiques très anciens, il y a aussi où on est le Xème organiste qui joue dessus. Là, cet orgue, je l'ai toutes les pièces. Ben, finalement, j'ai été le premier à le jouer dessus. Et puis, il y a des pièces où je me dis, mais ça sonne particulièrement bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces pièces-là aussi. D'une part parce qu'elles me touchent, d'autre part parce que la tonalité de Ré, la toccata en Ré, sonne incroyablement bien. On a un petit tempérament sur l'orgue, c'est-à-dire qu'il n'est pas en tempérament égal. Et vraiment, la tonalité de Ré, dans l'acoustique, avec les jeux, ça sonne vraiment très bien.
La si belle acoustique de cette basilique Saint-Sauveur qui a même été saluée l'an passé lors du festival par William Christie lui-même, qui l'a découvert à cette occasion.
Oui, Renaud
Capuçon vous a dit, qui vous a dit, mais quel petit bijou vous avez là en termes d'acoustique.
Oui. Bah, tous les artistes.
Ce sont des références, là.
Oui, Christie, Capuçon. Oui, c'est Christie quand même.
Ah oui, Christie, voilà. Qui concerne la musique baroque.
En plus, il ne pense pas qu'il fait des compliments facilement, William Christie. Je peux me tromper, mais je ne pense pas.
Il est très direct.
Cette toccata qu'on vient d'entendre, ce n'est pas la plus célèbre des deux toccata et fugues en Ré mineur de Bach. La plus célèbre, c'est la BWV 565, qui est à la fin de ce CD et qu'on écoutera un peu plus tard dans cette émission. Mais celle-ci, elle a un autre nom. On dit, pour la différencier de l'autre, on dit dorienne.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Parce que les gens qui vont dire dorienne, c'est-à-dire...
On me demande des questions assez techniques, mais dorien, c'est le mode dorien. Dans la musique, on a la plupart du temps, on a la musique tonale, le majeur, le mineur, et beaucoup de musique aujourd'hui est écrite sur cette tonalité. La toccata en Ré dorienne, c'est le mode de Ré, donc ils sont issus des modes grecs, des modes anciens. Et donc ça veut dire techniquement qu'il y a, par rapport à la gamme de Ré mineur ou de Ré majeur, l'intervalle entre les notes n'est pas exactement le même. Bon, c'est un peu technique à expliquer, mais voilà.
Non, mais je vous pose la question, pourquoi ? Parce que les gens qui vont lire le programme, ils vont voir toccata en Ré dorienne, entre guillemets. Le mode, c'est dorien, justement, et pas mineur.
Justement,
ça donne l'occasion d'expliquer.
Il n'y a pas la sensible, en fait. Donc,
ça donne l'occasion d'expliquer, ce qui est très bien. Alors, je reviens au programme de ce CD. Bon, vous avez expliqué un peu comment vous l'avez conçu. Il y a une certaine logique, une cohérence. Quand vous dites, ce sont des pièces, à mon goût personnel, que j'apprécie beaucoup, est-ce que c'est à la fois celui de l'auditeur et celui de l'interprète ? Parce que je sais qu'il y a des musiciens qui vous diront, il y a des œuvres, j'aime les écouter, mais j'aime pas forcément les jouer. Il y en a que j'adore les jouer, mais j'aime pas forcément les écouter. Vous, je suppose que le plaisir concerne ces deux aspects.
En fait, non.
Ah, non.
Enfin, je sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais très peu écouter de concerts d'orgue.
En fait, moi, lorsqu'il m'intéresse, c'est d'en jouer, c'est pas d'écouter.
Non, mais c'est parce que j'ai pas trop l'occasion non plus. C'est-à-dire que dans le Lot, il y a très peu de concerts d'orgue et mon travail de directeur du festival me prend énormément de temps. Mais
vous pourriez écouter de l'orgue chez vous. Sur disque, tout simplement.
Oui, c'est ça, mais j'en écoute pas, non. Et j'en écoute plus maintenant, enfin, plus, parce que, résultat, j'ouvre mon prisme aussi d'écoute. En revanche, je dis ça un petit peu en rigolant, mais quand il y a des concerts d'orgue dans le festival, on a déjà accueilli Michel Bouvard.
Oui, bien sûr.
Tous les étés, et j'ai toujours énormément de joie à entendre des concerts d'orgue joués par des collègues. Donc oui, en fait, j'aime énormément entendre cette musique aussi.
Tout de suite, un deuxième extrait de votre CD Vibrance, Aymeric Rollin, avec le premier des 6 chorales Schubler de Jean-Sébastien Bach, le BWV 645.
Thank you.
premier des six chorales Schubler de Jean-Sébastien Bach, le BWV 645, donc interprété par Raymond Rollin. Un autre extrait de votre CD Vibrance. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces ex-chorales von Verschiedener Art, cette collection de six préludes de chorales de Jean-Sébastien Bach, à qui on a donné ce titre chorale Schubler?
En fait, c'est simplement une commande de Monsieur Schubler qui a commandé à Bach six chorales.
C'est un éditeur, je crois, un graveur-éditeur, ce Monsieur Schubler.
Et qui devait être jouable par ce monsieur. Il lui a commandé, des chorales pour son usage personnel. Il n'en demeure pas moins que le premier n'est pas trop difficile à jouer, mais dans les suivants, il y en a qui sont quand même assez compliqués. Je me suis pas mal battu. Et justement, le premier, je le jouais depuis des années. Et les cinq autres, je les ai travaillés exprès pour le programme de ce disque, et ce sont vraiment des bijoux. Et je les ai choisis aussi parce qu'en fait, il y a une très grande diversité d'écriture. Il y a des moments, le thème est au pédalier, on le joue avec les pieds. Il y a des moments, le thème est aux mains. Et puis, chaque chorale, on peut faire entendre un instrument soliste différent de l'orgue. Et donc, j'ai choisi, de toute façon, dans le programme, il n'y a pas une pièce qui est avec la même registration, c'est-à-dire les mêmes couleurs que la précédente. Et donc, ça m'a permis, en fait, de faire entendre plein de sonorités différentes.
Et de mettre en valeur le grand orgue de Rocamadour et l'étendue de ses possibilités, Serge Chosy.
Oui, est-ce que tous ces chorales dérivent d'un chœur?
Parce que apparemment, il y en a au moins 5 qui seraient des transcriptions de cantates, effectivement.
Voilà, oui, c'est le cas de celui qu'on entend.
C'est typique. Il y en aura au moins 5 sur les 6. Je ne sais pas quel est le seul des 6 qui ne serait pas issu d'une transcription de cantate de Bach, mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a une certaine unité, d'ailleurs, dans ces 6 chorales, ou est-ce qu'ils sont très différents les uns des autres?
Non, ils sont très différents. Il n'y a pas de lien de tonalité, par exemple. On pourrait se dire, tiens, ils sont tous écrits sur la même tonalité. Même les enchaînements, ça fait des tonalités un peu bizarres de temps en temps, hein, dans les enchaînements. Là, c'est du mi bémol. Le suivant, il est en mi. Hein, donc, enchaîner mi bémol avec mi, c'est...
Oui, ça paraît comme ça. Ouais. Oui.
Donc, non, il n'y a pas trop de lien. Même, on pourrait se dire, est-ce que dans les thèmes des textes des chorales, alors j'ai plus les traductions par cœur, mais il n'y a pas forcément. Il y en a qui sont plutôt joyeux, d'autres qui sont vraiment beaucoup plus... qui parlent de thèmes plutôt de la mort ou de ce genre de choses. Donc, non, il n'y a pas vraiment de cohérence, je crois.
D'ailleurs, la traduction là, du titre allemand, c'est « six chorales de différentes façons ». De différentes façons.
Oui.
Donc, voilà. Alors après le premier, justement, pour mettre en perspective ces œuvres appartenant donc à cette série, nous allons écouter le sixième et donc dernier des six chorales Schubler de Jean-Sébastien Bach, celui qui porte le numéro BWV 650 au catalogue, et il est interprété bien sûr par Raymond Rollin. Le sixième chorale Schubler de Jean-Sébastien Bach, BWV 650, interprété par Aimant Rollin sur le grand orgue de la Basilique Saint-Sauveur, nouvel extrait de son CD Vibrance. Alors, vous me disiez, en vous réécoutant, oulala, celui-là, qu'est-ce qu'il est difficile ? Pourquoi il est si difficile?
Oui, il est difficile parce que le thème est au pied, il est joué au, le choral hein, qui rentre pas au tout début est au pied, et puis finalement les mains, c'est vraiment de la dentelle. Là, la registration qu'on entend, la main droite, là, on a l'impression que ça coule de source, mais en fait, ce sont des jeux de flûte de 8 et 4. C'est extrêmement sensible, et il y a des très grands écarts aux mains sur la main droite. On doit aller dans un seul arpège, chercher très grave et très aigu, et souvent la note aiguë, eh ben, avec le petit doigt, le cinquième, eh bien, on peut taper à côté assez facilement. Et là où c'est très difficile, eh bien, c'est que la mécanique de l'orgue de Rocamadour est ultra sensible. Et donc c'est vrai, j'avoue que j'ai pas mal lutté à travailler à faire en sorte qu'il soit parfait. Parce que quand on enregistre, on n'a pas le droit à l'erreur, et même pour le concert. Et voilà, alors que quand on le travaille pour soi-même, on peut se dire, oui, c'est pas trop grave, j'ai accroché un peu. Mais si on veut vraiment que ce soit très très bien, ça demande beaucoup beaucoup de travail. Et ça fait partie de à chaque fois que je remets ce programme en chantier, même tous les jours, ce choral, je vais travailler en faisant des rythmes, en redécomposant pour que mes mains soient vraiment bien positionnées.
Oui, alors évidemment, quand on enregistre un disque, on peut refaire. Mais alors oui. En concert, là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Faut être bon tout de suite.
Mais c'est ça.
Donc je dis pas ça du tout pour vous mettre la pression.
Oui, mais pour le disque, c'est peut-être encore pire parce que s'il y a un défaut sur le disque, chaque fois qu'on passe le disque, on entend toujours le même défaut. Donc c'est terrible.
Ça, c'est sûr.
Après, j'avoue que samedi, quand ce morceau-là sera passé, je serai plus détendu.
Oui, c'est grave.
Quand je le commence, je me dis allez, c'est parti pour les 3-4 minutes.
Et à mon avis, on l'entendra pas en bis celui-là. Non. On va en prendre un autre. Alors l'œuvre suivante sur votre CD, c'est le concerto en ré mineur BWV 596, encore cette tonalité en ré mineur qui domine un peu tout votre disque. Et concernant ce concerto, il faut nous raconter sa petite histoire parce qu'il appartient à une série de 5, c'est le dernier des 5, qui sont en fait des transcriptions encore, hein, des transcriptions pour orgue solo faites par Bach, deux concertos d'autres compositeurs. Alors celui-ci, le BWV 596, c'est une transcription de quelle œuvre, par quel compositeur?
Alors c'est un concerto de Vivaldi, d'Antonio Vivaldi, un concerto pour cordes et que Bach a transcrit pour l'orgue. Et puis quand on l'entend, on se dit que ça a toujours été écrit pour l'orgue. Hein.
Oui, effectivement, ça fait partie de la série L'Estro Armonico hein, d'Antonio Vivaldi. Mmh. C'est le 11e des concertos là, qui constitue cette série, le concerto numéro 11 en ré mineur pour deux violons. Violoncelle et cordes, Hervé 565. Voilà, on va être très précis. Mmh. Et on en parlait la semaine dernière justement avec Michel Brun. On sait que Bach a réalisé plusieurs transcriptions de concertos de Vivaldi. Est-ce que ce sont des œuvres importantes dans le monde de l'orgue, celles-ci justement, ces transcriptions pour orgue solo faites à partir d'œuvres appartenant à d'autres compositeurs?
Oui, on les travaille tout le temps parce que on sent la patte de Bach. Et en même temps, il y a de la folie italienne. Et ça, c'est
ce mariage de l'Italie
et l'Allemagne. Ce mariage des deux. Le mariage entre l'Italie et l'Allemagne, c'est quelque chose qui fait vraiment un bon ménage. Et je crois que quand on joue ces concertos-là en concert, ça fait toujours son effet, en fait. Hein. Vraiment, c'est des œuvres aussi qui sont extrêmement appréciées par le public.
C'est un classique de l'orgue en concert, celui-ci en particulier.
Oui, il y a celui-là. Il y a le concerto en la aussi, qui est aussi une transcription de Vivaldi. Il y a celui de Marcello aussi, qui est ultra connu, la transcription. Et en fait, le public adore ça.
Voici donc un extrait de ce concerto en ré mineur BWV 596 de Jean-Sébastien Bach, transcription pour orgue solo du concerto numéro 11 Hervé 565 d'Antonio Vivaldi, le quatrième mouvement Allegro.
Thank you.
Le quatrième mouvement Allegro du concerto en ré mineur BWV 596 de Jean-Sébastien Bach, transcription pour orgue solo du concerto numéro 11 RV 565 d'Antonio Vivaldi, réalisé par Jean-Sébastien Bach et interprété ici par Aymeran Rollin, un extrait de plus de votre CD Vivrance, Aymeran. Nous continuons notre exploration de ce CD avec la sonate en trio numéro 3 en ré mineur, encore du ré mineur, c'est la BWV 527, celle-ci, sonate en trio. Pourquoi donc vous la jouez bien en solo?
Oui.
Alors, il faut nous expliquer là.
Les sonates en trio, il y en a 6 dans le répertoire là pour orgue, écrit par Jean-Sébastien Bach. En trio parce qu'il y a 3 voix. Il y a une voix qui est jouée à la main droite, une voix qui est jouée à la main gauche et une voix qui est jouée au pied, par les deux pieds. Et donc, souvent, ces œuvres aussi sont jouées par des instrumentistes. C'est comme si, finalement, la basse fait ce qu'on appelle le continuo, donc ce qui est joué par l'orgue positif et la viole de gambe. Souvent, donc la basse. Et puis au-dessus, on a deux solos. Ça peut être une flûte et un violon. Ça peut être un hautbois et une flûte. Deux instruments qui dialoguent ensemble, qui se répondent. Et ça donne des pièces très virtuoses pour les mouvements rapides, extrêmement poétiques pour les mouvements lents. Sont des œuvres absolument sublimes.
Alors voilà, j'espère que tout le monde aura bien noté qu'un organiste doit jouer avec les pieds et non pas comme un pied. Hein. J'arrête la plaisanterie, je reviens à cette sonate en trio, ces sonates en trio, parce qu'apparemment, ce sont vraiment des œuvres qui sont considérées comme des sommets de l'art du contrepoint évidemment par Jean-Sébastien Bach, mais qui sont aussi très difficiles, semble-t-il, à jouer, très redoutées. On les trouve souvent dans les concours.
Ah oui, c'est...
Vous y avez eu droit, je suppose.
Bien sûr. En effet, au conservatoire, une sonate en trio, ça fait partie vraiment de la base.
De l'exercice imposé.
En fait, pourquoi c'est difficile? Parce que quand on joue quelque chose où on en a beaucoup sous les doigts, on peut se dire il y a plein de notes, mais en fait, ça demande moins d'indépendance que là où on est sur quelque chose de très très fin. Il y a 3 voix et chaque voix doit être extrêmement indépendante. C'est-à-dire que chaque voix, on doit phraser et finalement, on doit arriver à faire en sorte que l'auditeur se dise oui, j'entends vraiment les 3 instruments différents. L'articulation que je fais avec les pieds ne doit pas influencer ma main droite ou ma main gauche, ou ce que fait ma main droite ne doit pas influencer ma main gauche. Et donc, en fait, quand on travaille ça au conservatoire, c'est redouté beaucoup par les élèves parce que c'est très difficile, parce que justement, on se sert aussi de ces sonates en trio pour nous faire travailler ce qu'on appelle l'indépendance des membres, qui est la base pour l'organisme, c'est-à-dire d'être capable que notre cerveau envoie des informations différentes à chacun de nos membres et qu'on arrive à faire des choses, du piqué au pied par exemple, alors qu'on fait du lié à la main, enfin des choses très très différentes.
Voilà, petite leçon de choses et petite leçon d'orgue par Aymeran Rollin. Alors, on va l'écouter maintenant, cette sonate en trio numéro 3 en ré mineur BWV 527. Voici le 3e mouvement Vivace, interprété comme il se doit par Aymeran Rollin. La sonate en trio numéro 3 en ré mineur BWV 527 et son 3e mouvement Vivace, interprété par Aymeran Rollin, nouvel extrait de votre CD Vivrance, Aymeran, dédié à la musique pour orgue de Jean-Sébastien Bach, CD que vous concluez par une des œuvres de Bach les plus connues du grand public, la fameuse toccata et fugue en ré mineur, BWV 565 que nous évoquions tout à l'heure. Il fallait terminer avec cette pièce parce que c'est aussi une manière un peu de tenir en haleine le public, parce que quand on va écouter un concert d'orgue et qu'il y a du Bach, quelle est la pièce qu'on attend? Bah, c'est celle-ci.
Alors, les organistes, non, mais le grand public, oui. Et en fait, cette pièce, je voulais vraiment faire un programme où j'encadre par les deux grandes toccatas en ré de Jean-Sébastien Bach. Et cette pièce, donc cette célèbre toccata, je l'ai travaillée en arrivant à Rocamadour. Parce que Rocamadour, c'est un lieu extrêmement touristique où passent beaucoup, évidemment, de touristes. Hein. Et qui connaissent pas l'orgue. Et je fais beaucoup d'actions de sensibilisation et de médiation. Et c'est vrai que pour toucher le public, ce public touristique hein, qui découvre cet instrument, quand je leur joue cette pièce, l'effet est absolument dingue. C'est pas compliqué. Hein, une visite sur deux, il y a des gens qui pleurent à la fin de l'écoute de l'œuvre. Voilà.
Ah oui.
Parce
que
déjà,
y a de quoi,
ouais. Ils l'entendent.
Oui.
C'est une pièce qui est chargée émotionnellement. Et puis surtout, quand je leur joue la pièce et qu'ils sont assis à côté de moi à la console et qu'ils ressentent, ce qui les fait pleurer aussi, c'est qu'ils ressentent pour la première fois, après toutes les explications de comment écouter l'instrument, comment il fonctionne, etc., ils entendent avec leur corps cet instrument. Parce que l'orgue, c'est un instrument qu'on ressent physiquement.
Oui.
L'écouter en disque, on perd 80% de la sensation. Quand on est sur place, toutes les vibrations, on les ressent corporellement. Et en fait, vraiment, je n'exagère pas. Une visite sur deux, il y a des gens, quand je termine la pièce, ils sont en pleurs à côté de moi. Et en fait, émotionnellement, c'est très chargé. Et donc, cette pièce que moi, personnellement, franchement, je la joue 100 fois par été. Mais sauf que finalement, elle est tellement chargée d'émotions, parce que la musique, on ne la fait pas que pour soi, on la fait pour le public. Et c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui en pleure à côté de soi, parce que ce qu'on est en train de faire, nous, en tant qu'interprète, c'est en train de la toucher profondément. Et en fait, moi, ça m'a tellement touché aussi qu'à chaque fois que je joue cette pièce, maintenant, je suis pas lassé parce qu'elle déborde d'émotions. Voilà.
Est-ce que c'est une de celles qui vous a donné envie de devenir organiste? On peut penser que oui, mais pas forcément.
Ah non, pas du tout.
C'est pas celle-ci.
Non. Moi, ce qui m'a donné envie de devenir organiste, c'est justement ce rapport très physique à l'écoute de l'instrument. La beauté, déjà, hein, des orgues, quand on rentre dans une église ou dans des salles de concert, on voit cet instrument, il est incroyable. Et puis ensuite, l'écoute, la douceur, la puissance, aussi le spectre.
C'est un instrument orchestre.
Oui, c'est ça. Et en fait, on a des graves incroyables, on a des très aigus. C'est plutôt ça. Et puis après, j'ai découvert Bach par une intégrale de Lionel Rogue que j'écoutais en boucle quand je jouais au Lego chez moi, dans ma chambre.
Très tôt. Donc.
Et donc, très très tôt. Et je mettais l'intégrale Bach et les 12 disques de l'intégrale, et puis les uns après les autres. Et moi, je jouais à mes petits Lego et j'ai été bercé par ça.
C'est la première fois que j'entends un musicien dire la passion de la musique m'est venue en jouant au Lego. Mais pourquoi pas? On ne va pas faire languir plus longtemps nos auditeurs qui attendent certainement avec impatience la toccata et fugue en ré mineur BWV 565 de Jean-Sébastien Bach. La voici donc interprétée par Aimeran Rollin sur le grand orgue de Rocamadour. la toccata et fugue en ré mineur, célèbre toccata en fugue et ré mineur, BWV 565 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Aimeran Rollin sur le CD Vibrance, qui constitue donc la trame du programme de votre récital ce samedi 26 juin à 20h30 en la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. On peut réserver et acheter ses places en ligne sur le site www.rocamadourfestival.com, où l'on peut également commander en passant votre CD Vibrance. Et à propos du festival Aimeran Rollin qui a lieu cette année, je le rappelle, du 15 au 26 août, un petit mot tout de même, où en sont les réservations? Est-ce qu'il reste encore des places à tous les concerts?
Alors, les réservations fonctionnent très bien. On a sorti la programmation donc en janvier dernier, une programmation qui a été assez plébiscitée par le public fidèle du festival. Il y a quelques concerts complets déjà, ou quasiment complets. Le concert de Renaud Capuçon avec les variations Goldberg de Bach, la transcription pour trio à cordes. Il nous reste quelques places, mais vraiment une dizaine de places en troisième catégorie.
Ah, il faut vous dépêcher, là, si vous voulez être présent le 17 août au concert de Renaud Capuçon, Gérard Cossé et Victor Julien Laferrière.
Voilà. Et ensuite, un autre concert complet, c'est le concert sous les étoiles au Dolmen de Magès. Voilà, et puis après, pour tous les autres concerts, il reste des places, mais ça se remplit très très bien.
Donc il y aura ouverture le 15 août avec le concert spirituel d'Hervé Niquet ensemble qui est en résidence à Rocamadour. 15 août à 21h à la Basilique avec un magnifique programme Handel, le Tédéum de Dettingen, les Coronation Anthems et le God Save the Queen. Voilà, magnifique programme Handel. Et puis bon, il y a deux concerts dans la prairie là, il faut en parler parce que là il y a 2000 places possibles. Vous pouvez accueillir 2000 personnes. 24 août, le concert de la Loge et les 4 saisons de Vivaldi. Et le 25 août, Philippe Jaroussky qu'on ne présente plus avec l'arpeggiata de Christina Pluhard. Les deux concerts sont à 21h30. Donc là, vous avez la cité qui est illuminée au-dessus de votre face. C'est un décor éblouissant, un décor comme on en voit, je pense, très peu en France. Là, il reste des places et il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas le rater parce que enfin, c'est vraiment une ambiance très particulière.
Eric, vous avez vécu déjà un concert sur cette scène. C'est le décor et sublime la musique. Ouais, alors là, on a des interprètes incroyables, mais c'est vrai que voilà, la sensation que les gens ont et que j'ai eue également quand on arrive sur la pente qui descend pour aller s'asseoir sur ces places et qu'on a toute la vue de la cité qui se dévoile, la scène, les musiciens, enfin c'est absolument incroyable.
Et puis juste une petite chose pour les passionnés de chant choral, est-ce qu'il reste des places au stage d'été, au stage de chant choral, qui est aussi un des piliers du festival, vraiment?
Oui.
Il y a deux sessions cette année. Hein.
Oui, il y a deux sessions parce qu'il n'y en avait qu'une. Et puis en fait, le 11 mai, c'était complet. Et je me suis dit, on ne va pas refuser tous ces gens qui ne peuvent pas chanter depuis des mois. Et donc, on a ouvert un deuxième stage. On a déjà dépassé la vingtaine d'inscriptions pour le deuxième stage. Donc, il reste des places pour la deuxième session qui est donc du
20 août.
Au 26 août. Voilà.
Voilà. Et je crois que ça sera consacré essentiellement à du chant polyphonique.
Voilà, il y a le deuxième stage est exclusivement chant polyphonique avec quand même trois ateliers de découverte d'Hildegard von Bingen avec notre chère Anne Bertin-Hugo.
Alors là, vous avez une spécialiste qui est une excellente musicienne et chanteuse en plus. Alors on en termine pour la partie Rocamadour, CD Vibrance et Serge Chosy. On va maintenant passer avec vous à d'autres événements qui sont dans l'agenda de la semaine prochaine et notamment le dernier concert de la saison des grands interprètes, jeudi 1er juillet à 20h, où sont programmés l'ensemble Pomodoro et le contre-ténor argentin Franco Fagioli à l'Allograin, qui devrait pouvoir accueillir le public au maximum de sa jauge cette fois-ci, puisque je crois qu'à partir du 30 juin, toutes les contraintes sanitaires restrictives sont levées, a priori. Or, toujours est-il,
espérons-le.
Je pense qu'il reste, là il reste des places, mais il faut se dépêcher aussi, il n'y a qu'une œuvre au programme, une seule, et c'est justement du Handel.
Ah oui, du Handel, et c'est son opéra Oreste, qui n'est pas l'opéra le plus souvent donné de Handel. On se souvient qu'en 2018, on avait eu droit à Circé, également d'Handel, avec les mêmes interprètes d'ailleurs, pratiquement, avec Fagioli contre ténor, et puis il Pomodoro. Toujours sous la direction de Maxime Emelianichev. Alors, Maxime
Emelianichev. Qui est le directeur musical
Qui est le directeur de l'ensemble. Le claveciniste également. C'est un personnage incroyable, Maxime Emelianichev.
C'est presque un homme orchestre à lui tout seul.
Ah oui, oui. Il dirige les grands orchestres symphoniques. Il vient tous les ans diriger l'Orchestre National du Capitole. Il joue du clavecin, il joue du piano et il joue du cornet à bouquin. Non, mais c'est vraiment une chose incroyable. Et donc là, il va diriger une version légèrement raccourcie, parce que les opéras d'Handel, très souvent, sont très longs. Hein. Et là, il s'agit d'une version de concert. Donc, il y aura quelques récitatifs qui seront supprimés. Mais c'est quand même l'opéra Oreste, un opéra qui a été créé à Londres en 1734. Alors, c'est l'opéra du compositeur allemand le plus anglais ou du plus anglais...
Il était anglais,
allemand.
il a eu la nationalité, on lui a...
Oui, mais il est né en Allemagne.
Il a, évidemment, son nom le trahit un peu, mais il est mort anglais.
Oui, absolument. Il est mort, rappelons-le, sa vue a été massacrée par le même ophtalmologiste qui avait aussi massacré la vue de Jean-Sébastien Bach, qui sont exactement contemporains, donc. Eh bien, voilà, il y a ce lien entre les deux. Et puis, alors, chose incroyable, c'est que l'allemand, donc d'origine Händel, écrit un opéra à Londres qui est chanté en italien. Donc, c'était vraiment l'Europe avant l'heure.
Qui était la langue de l'opéra à l'époque.
Oui, exactement, exactement. Et donc, on aura la chance de retrouver donc, le contre-ténor argentin Franco Fagioli, qui est
un des grands contre-ténors actuels.
Magnifique, qui non seulement possède un timbre magnifique, un très beau timbre, mais qui est d'une virtuosité dans les vocalistes qui est effarante.
C'est un grand interprète aussi.
Un grand interprète,
un grand chanteur, un grand virtuose, c'est un grand interprète.
Un grand interprète et spécialisé de toutes ces œuvres qui étaient composées à l'époque pour les castrats.
Oui, opéra baroque, d'inspiration italienne, oui.
Que les castrats étaient des personnages adulés à l'époque, comme les pop stars ou les rock stars d'aujourd'hui. Heureusement, il n'y a plus de castrats. Et maintenant, les contre-ténors ont pris la relève, en quelque sorte. D'ailleurs, ces rôles-là, comme celui d'Oreste, quelquefois sont chantés par des sopranos, par des femmes. Mais originellement, c'était pour des castrats. Donc. Et alors, on aura une belle distribution avec des gens, notamment qui étaient déjà venus pour Cercé en 2018, avec deux sopranos, Siobhan Stagg et Inga Kalna, qui étaient déjà venues toutes les deux, le ténor Christian Adam, le baryton Biagio Pizzuti et la contralto Margherita Sala. Donc voilà la belle distribution qui nous attend, ça va être une belle soirée.
Oui, il faut en profiter avant de partir en vacances.
Là, c'est...
D'autant plus qu'on a été privé de beaucoup de concerts cette saison des grands interprètes. Bon, certains ont été reportés, heureusement, donc on les aura la saison prochaine.
Oui.
Mais bon, il ne faut vraiment pas rater celui-ci. Nous allons vous donner un petit aperçu de ce programme en écoutant maintenant un des airs d'Oreste de Händel, Agitato da fiere tempeste, extrait de l'acte 1, interprété par Franco Fagioli, accompagné par l'ensemble Il Pomodoro. Sicuro sentire Agitato da Fiere Tempeste, extrait de l'acte 1 d'Oreste, interprété par Franco Fagioli, accompagné par l'ensemble Il Pomodoro. L'opéra de Handel est donc donné par les mêmes, dirigé par Maxime Emilianichev en version concert, jeudi 1er juillet à 20h à la Halle aux Grains, dans le cadre de la saison des grands interprètes. Et Serge, vous vouliez aussi, avant qu'on termine cette émission, nous signaler un autre concert le 1er juillet, c'est le même jour, le récital de Yasuko Bouvard au Petit Théâtre Saint-Exupère de Blagnac, où elle va jouer du Mozart sur pianoforte.
Voilà, alors c'est devenu une spécialiste. Depuis qu'elle a passé commande à Christopher Clark, qui est
un facteur de
piano britannique, elle lui avait passé commande de la copie d'un pianoforte viennois, mais pas n'importe lequel, de Walter, qui était le fournisseur de Mozart et de Beethoven, évidemment, c'est important. Donc, elle va donner un récital de sonates de Mozart. Alors, il y a des sonates, la majorité des sonates pour pianoforte seulement, et il y en a une qui est notée par Mozart, sonate en si bémol majeur, avec accompagnement d'un violon. Donc ça n'est pas du tout le piano qui accompagne le violon, c'est l'inverse. C'est le violon qui accompagne le piano. Et en l'occurrence, ce sera joué au violon par Marie Bouvard-Rolly, qui est la fille donc,
ça reste en famille.
De Michel Bouvard et de Yasuko.
Elle a de qui tenir, cette petite.
Bouvard. Ah oui, tout à fait. Et le concert sera présenté par Michel Bouvard lui-même. Alors il y aura une sonate en sol majeur, Köchel 283, sonate en la majeur, Köchel 331, et puis la fameuse sonate en si bémol majeur avec accompagnement de violon, et après la pause, sonate en si bémol majeur, Köchel 333, et le rondo en la mineur, Köchel 511, donc plus tardif, qui date de presque la fin de la vie de Mozart, du jeune Mozart, puisqu'il a toujours été jeune, donc à Vienne. Voilà donc le programme de ce concert qui aura lieu donc dans le petit théâtre Saint-Exupère de Blagnac.
C'est une église désacralisée qui est maintenant un petit théâtre qu'on appelle Petit Théâtre Saint-Exupère, qui est administré par Audi-Sud. Ça fait partie de la saison.
Et ce concert fait partie de la saison Audi-Sud, il faut le souligner. Donc c'est une reprise en quelque sorte des manifestations culturelles de la scène blagnacaise.
Oui, elle aussi a beaucoup souffert, évidemment, de la crise sanitaire, puisque je pense qu'il n'y a même rien eu, même depuis la fin du confinement, Audi Sud. Ouais. Donc on va basculer, c'est déjà presque la saison prochaine, en fait, qui commence.
Exactement.
À cette occasion, et ma foi, c'est une belle façon de la commencer avec cette très grande musicienne,
absolument,
grande organiste, grande claveciniste et grande continuiste. Enfin bon,
elle participe à la plupart des ensembles régionaux de musique ancienne, que ce soit l'ensemble baroque,
les passions Montauban,
les passions baroques. Donc, c'est vraiment un grand plaisir que de la réécouter dans ce répertoire dont elle a enregistré un disque d'ailleurs.
Voilà, donc ce sont les Bouvards qui vont recevoir à cette occasion à 20h30 le 1er juillet au Petit Théâtre Saint-Exupère. C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup à vous deux, Serge Chosy et Aymeran Rollin, d'en avoir été les invités. Je rappelle donc le récital que donne Aymeran Rollin ce samedi 26 juin à 20h30 en la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, où il va jouer sur le grand orgue un programme entièrement dédié à Jean-Sébastien Bach et largement inspiré du CD Vibrance, paru en fin d'année dernière. Les réservations et l'achat des places pour le concert, la commande du CD, sont à faire sur le site en ligne du Festival de Rocamadour, www.rocamadourfestival.com, où vous pouvez également trouver toute la programmation du prochain festival qui a lieu, je le rappelle encore une fois, du 15 au 26 août. N'hésitez pas, là encore, à réserver et acheter dès maintenant vos places en ligne sur le site du festival. Je rappelle aussi que les représentations d'Electra, l'opéra de Richard Strauss, commencent tout juste au Théâtre du Capitole et qu'il y en a encore 4 les 27 et 29 juin, ainsi que les 2 et 4 juillet. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.theatreducapitole.fr. Pour Oreste, l'opéra de Handel donné en version concert jeudi 1er juillet à 20h à la Halle aux Grains par Il Pomodoro et le contre-ténor Franco Fagioli, vous pouvez acheter et réserver vos places toujours en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Et enfin, si vous voulez aller écouter l'excellente Yasuko Bouvard dans son récital Mozart sur pianoforte, également le 1er juillet mais à 20h30 au Petit Théâtre Saint-Exupère de Blagnac, je vous invite à vous connecter au site web d'Audi Sud, www.audisud.com, pour vous renseigner, réserver et acheter vos places en ligne. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité, bon week-end et très bonne semaine musicale à tous.